entre les poteaux.
Christophe Cessieux.
Salut à tous. S'ils ne possèdent pas le jeu le plus clinquant du rugby français, si leurs stars ne sont que rarement appelés en équipe de France et si leurs dirigeants continuent de sentir le soufre, il n'empêche, Montpellier cette année pourrait bien décrocher une, voire deux timbales. Les hommes de Codulo, qui ce week-end sur leur pelouse du Septéo Stadium ont décroché leur 13e succès de l'année 2026 en 15 matchs disputés, leur 8e victoire en top 14. Résultat, les voilà qualifiés pour la finale de la Challenge Cup qu'ils disputeront dans deux semaines à Bilbao et en bonne voie pour rallier directement les demi-finales du top 14. Et si c'était à nouveau l'année du MHR, 4 ans après leur premier titre hexagonal, cette question, on va se la poser avec les poteaux emmenés aujourd'hui par un certain Cédric Emans, expert en matière de boucliers et autres trophées en tout genre. Salut Cédric.
Bonjour à tous, ravi d'être là.
Eh ben, on est ravi de t'avoir à nos côtés. À tes côtés, justement, Julien Landry, qui rêve lui aussi. Il l'a déjà tâté, ce bouclier, il y a quelques années. Il a surtout tâté de la fête pendant deux mois derrière. Et il rêve encore d'un bel été, hein, mon Julien?
Salut Christophe, salut à tous.
Ça te fatigue à l'avance, non?
Non, c'est des bons moments à vivre. C'est ouais. Des chouettes moments.
Exactement. Pierre Thévenet, lui aussi, il aimerait bien tâter du bouclier.
Mais oui.
Mais pas avec Montpellier.
Mais pourquoi pas? Ma première année à RMC, c'était le titre de Montpellier en 2022. Oui. Et j'avais tourné des vidéos d'Enzo Forletta en boîte de nuit avec Marco Tolègne qui a alpagué Vincent Moscato. Et c'est un très beau souvenir de.
En imitant Christophe Furios.
En imitant Christophe Furios, exactement. Donc, c'était un
très
bon moment.
C'est toi qui l'avais fait sur la plage aussi?
Non, sur la plage, ça, je les avais laissés tranquilles.
Ah oui, Enzo Forletta fait partie des personnages découverts lors de titre 2022 où je me rappelle une scène dans un restaurant où il servait un digestif après match et Enzo Forletta arrivait, il disait non toi t'es tombé dedans quand t'es petit et il avait pas eu le droit au digestif
et il disait aussi Vincent Moscato tu le sais très bien que t'as pas cru en nous et tu le sais très bien.
Bon, en tous les cas c'est vrai que ça fait des souvenirs à tout le monde et peut-être d'autres souvenirs à venir. En tout cas, bon, ce n'était que Montauban vous me direz, mais tout de même Montpellier n'a pas tremblé ce week-end sur sa pelouse en obtenant un 6e succès de rang, Challenge Cup et Top 14 cumulés, victoire et 59 points inscrits qui permettent aux coéquipiers de Vunipula de se hisser pour la première fois de la saison au rang 2 du Top 14, cette place si convoitée qui permettra dans un petit mois maintenant à son possesseur de se qualifier directement pour le dernier carré, drôle de parcours que celui du MHR version 2025-2026.
Linouchi magnifique, la passe sur un pas de Linouchi pour Donovan, Tao Fufenua, Linouchi c'est un magicien en bout de ligne, il a passé les bras, le petit off-flop parfait pour permettre à Tao Fufenua d'aller derrière les poteaux marquer cet essai qui va assurer la victoire au Montpellier. Hein.
Montpellier a potentiellement la pénalité de la gagne. C'est parti dans le ciel bordelais, ça va passer pour Miotti. Montpellier qui prend les devants, 23-21.
Et Montpellier là fait vraiment un grand coup dans l'optique de la qualification en phase finale. 23-21 pour le MHR.
Voilà Alexis Bernardet qui ne prend aucun risque, qui sort ce ballon au pied, qui permet au Montpellier de souffler, battre Newport de manière limite de finalement aller à Bilbao rencontrer Leicester. C'est pour Montpellier.
Quadruplé pour Monsieur Rusto Picardo aujourd'hui. Rusto Picardo, si. Il est 59-7, 9 essais à 1 à Montpellier. Qui est seul deuxième du top 14 avec ce point de bonus offensif.
Voilà, Montpellier qui étonne semaine après semaine, après un début de saison peut-être un peu compliqué. On va y revenir évidemment avec Julien, avec Cédric et avec Pierre. Julien, si on t'avait dit en début de saison qu'à 3 journées de la fin, le MHR serait dauphin de Toulouse, qualifié pour la finale Challenge Cup, franchement, tu aurais cru?
Qualifié pour la finale de Challenge Cup,
ça c'était possible.
Non, oui, parce que...
Oui, en plus ils aiment bien cette compétition.
Non, mais voilà, contrairement aux autres clubs de top 14, Montpellier a toujours aimé cette compétition. Ils l'ont déjà gagné deux fois et Codulo a toujours voulu la jouer. Donc les retrouver finalistes là dans une compétition que la plupart des équipes lâchent, c'était pas forcément une surprise. Les voir classés deuxième, non, c'est inespéré quasiment. Les voir dans les six, c'était vraiment l'objectif. On se rappelle que la saison dernière, ils ratent le top 6 lors de la dernière journée. Défaite à domicile contre Clermont, c'est Clermont qui se qualifie, Montpellier rate ce top 6 sur cette dernière journée, rate d'ailleurs même le top 8 et se retrouve en challenge, mais tu sentais que Johan Codulo avait mis des choses en place, que ce staff, on va en reparler, mais ce staff jeune avait pris de l'expérience et que cette année il y avait un effectif bâti avec un staff qui avait un an de plus pour être dans les 6, être deuxième comme ils sont là, je pense que ça dépasse même... Leur objectif, Johan Codulo, arrête pas de répéter depuis des semaines. Si tu me donnes la feuille demain et que je suis sixième, je signe. Donc, eux, être sixième, pour le moment, ça reste l'objectif. Être deuxième, deuxième aujourd'hui.
C'est quoi, c'est un manque d'ambition?
Non, c'est pour dire que
ils disent tous pareil. On a eu Sébastien Piqueroni à l'antenne hier qui nous dit non, mais top 2, moi, pour l'instant, je m'en fiche complètement.
Pas le Stade Toulousain, Cédric.
Non, le Stade, forcément, il vise la première place. Mais si on regarde Montpellier, Montpellier, avec l'expérience de l'année passée où il loupe la dernière marche, la dernière journée, bien sûr qu'il reste prudent. C'est tout à fait logique. Ils espéraient tellement se qualifier, ce jeune staff, l'année dernière, que là, ils ne vont pas s'enflammer. Après, c'est évident de les voir à la deuxième place à trois journées de la fin. C'est, alors, je n'ai pas envie de dire que c'est un miracle, parce qu'on va revenir sur le jeu qu'ils proposent et comment ils jouent. Mais c'est une très belle évolution avec, je le redis, des joueurs qui s'entendent bien, qui vivent bien ensemble. Et puis, si on parle d'état d'esprit assez rapidement, ils ont 12 bonus. C'est-à-dire qu'ils ne lâchent jamais rien.
Ouais.
Que ce soit en attaque, en défense, ça reflète un état d'esprit qui est peut-être ce nouveau MHR qui est en train de se construire dans la durabilité.
D'ailleurs, Cédric, c'est la seule équipe de notre championnat qui n'a pas pris une seule grosse valise cette saison. Le Stade Toulousain a pris plus de 40 points sur certains déplacements. Les Montpellierains n'ont jamais lâché un match cette saison, excepté peut-être celui de Toulouse où ils finissent par...
C'est quand même la seule équipe qui n'a fait que match nul à Montauban.
C'est vrai, c'est la seule, mais c'est la seule équipe qui n'a explosé nulle part cette saison.
Ouais, c'est la petite erreur de parcours, hein, tout en respectant Montauban, c'est que il ramène le nul de Montauban qui,
miraculeux,
qui est peut-être pas trop mérité, qui est miraculeux, ce qui leur fait des points de retard au classement, mais après ils s'accrochent toujours et on le voit à l'image de certains garçons qui sont remis en question. Je parle du pilier droit de ce week-end, hein, Christopher Tolofoa, qui lui a accepté de passer et qui a accepté. Mais c'est un état d'esprit, hein. C'est vraiment dire ok, je me mets au service du collectif pour le bien du club. Et ça, pour un entraîneur, c'est du luxe. On sait que l'entraîneur de Montpellier travaille habilement sur le management de ses garçons, a su recruter. Saint-André le dit, hein, c'est peut-être un des meilleurs recruteurs du championnat. Il bâtit une équipe sans faire de bruit, sans de grandes déclarations, mais l'état d'esprit est là.
Alors venons-en justement, puisque Cédric attaque là-dessus sur Codulo, cet entraîneur qui avait été nommé à l'été 2024 entraîneur en chef, un peu à la surprise générale, Julien. Personne n'était vraiment sûr du résultat. C'est un garçon qui est très attaché au club, qui était patron du centre de formation, qui a donc vécu le sac de 2022 là, très près du staff, et qui s'est retrouvé donc parachuté comme patron, mais qui tout de suite a fait rapidement ses preuves.
Alors, Johan Codulo, c'est un enfant du MHR. Alors, il a commencé sa carrière du côté de Jacou, un petit village, une petite ville à côté de Montpellier. Il est de suite arrivé ensuite à Montpellier, où il a fait toute sa carrière jeune, avant d'être professionnel, capitaine du MHR sous Fabien Galthié, ne l'oublions pas. Il est de l'équipe de 2011 qui se retrouve en finale du top 14. Il est l'un des leaders de Fabien Galthié avec Fabien Roff. Donc, Johan Codulo a connu les premières heures de gloire montpelliéraine en termes de sportifs, avec l'éclosion à cette époque de Fulgence Ouédraogo, François Trinduc notamment. Mais Johan Codulo était l'un des cadres du groupe. Fabien Galthié a de suite le dit souvent, hein, j'ai de suite vu que c'était un mec qui était fait pour ça. On l'appelle le calendrier, Johan Codulo, depuis qu'il est petit, parce qu'il aime organiser les réunions, il aime organiser les sorties.
C'est un peu le Wilfried Templier de Montpellier, quoi.
Non, mais il organise tout.
Ouais, c'est que pour les soirées.
Il organise tout. depuis qu'il est jeune, il organise tout. Voilà, il a ce vrai profil de manager. Il n'a pas été gardé par Fabien Galthié. Il a terminé sa carrière du côté de Mont-de-Marsan.
Ils sont restés copains ou...
Oui, ils sont restés aujourd'hui. Fabien vient souvent à Montpellier. Ouais. Et Johan Codulo, ils échangent souvent. Il est parti à Mont-de-Marsan. Et puis, à la fin de sa carrière de joueur, il est devenu directeur du centre de formation de Mont-de-Marsan. Et puis, il est revenu à Montpellier parce qu'il a eu l'opportunité de récupérer le centre de formation du MHR. Donc, il a travaillé avec beaucoup des jeunes qui sont en train d'éclore aujourd'hui. C'est lui qui a fait venir notamment Lenny Nouchi, quand il était du côté de Béziers. Et tu l'as dit, la saison après le titre, il est déjà devenu entraîneur avec Jean-Baptiste Elissal. Il s'est occupé que des avants. Et donc, il avait déjà, lui, une expérience en tant qu'entraîneur professionnel. Et c'est vrai qu'à la fin de cette époque 2024, où ils avaient arraché le maintien difficilement, il avait été beaucoup question de faire revenir un peu les valeurs montpelliéraines avec les Codulo, les Doumerou. Et Moed Altrad avait décidé de faire confiance à Johan Codulo, l'avait lancé patron de cette équipe. Et c'est vrai que lancé un petit peu sans aucune expérience, ils ont fait leur expérience sur le tas avec la réussite que l'on connaît aujourd'hui.
C'est incroyable, Cédric.
Permets-moi de te couper. Hein. Ouais, permets-moi de te couper parce que Codulo, il n'a pas l'expérience d'être sur. Il a été entraîneur sous.
En charge des avants.
Télissal,
ouais, c'est ça.
En charge des avants. Mais il a la connaissance du club. Et aujourd'hui, un club comme Montpellier qui avait besoin de se restructurer, de se rappeler des bases de son ADN, qui de mieux qu'un entraîneur qui a connu le centre capitaine. De formation, passé par devant, ancien capitaine, qui a été parmi les belles aventures du MHR. Je pense qu'ils sont en train de bâtir ce que les grands clubs aujourd'hui font, c'est appel aux anciens avec des compétences, des compétences. Mais on rappelle les anciens, on met de la compétence tout autour du terrain, mais surtout on s'appuie sur une ADN forte. On a toujours vu Montpellier, dans les grandes années, très costaud devant, jouer, avoir cet esprit un peu, pardon du terme, mais pitbull, de rien lâcher, quoi. Et cet ADN là, ben on le retrouve cette année à Montpellier. Alors oui, ils font pas de bruit, oui, il est peut-être discret, mais il travaille sacrément bien.
D'ailleurs, l'ADN, lorsqu'il est arrivé, il a été voir Pascal Mancuso, qui est un ancien grand joueur du MHR, et Fulgence Pedrogo.
L'ADN de Montpellier, c'était surtout les box, hein, l'influence sud-africaine.
Ils ont voulu revenir à ce qui se faisait, comme le dit Cédric, l'histoire. Donc ils ont sondé tous les anciens joueurs montpelliérains depuis 1986, en disant c'est quoi les mots clés qui définissent l'identité montpelliéraine. Donc la fleur de Cissé, le logo.
On rappelle que c'est un club assez récent.
Assez récent, 1986, exactement. Donc Cédric l'a dit, le combat, le jeu d'avant, être rugueux, une grosse défense. Et donc c'est des mots qu'ils ont affichés partout. Et donc Joan Codulo, quand il est arrivé, il a dit les valeurs du club, c'est ça, on va s'appuyer sur ça, une grosse défense, une grosse conquête, et on construira le jeu après offensif derrière. Mais aujourd'hui, mais ils se sont appuyés sur ça.
Là où je trouve ça pertinent du côté de Montpellier, c'est que ça ressemble aussi à ce que font d'autres clubs pour qui ça marche en ce moment.
Exactement.
C'est-à-dire que les clubs qui fonctionnent cette année, c'est les clubs qui ont décidé de choisir une identité forte et de s'y tenir. La section paloise a choisi son identité à travers la formation, à travers le jeu, et ça marche. Moi, je suis beaucoup les deux clubs parisiens. L'année dernière, il n'y avait plus d'identité. On ne savait plus ce qu'ils faisaient. Le Stade français a voulu se mettre à plus jouer. Le Racing était dans un entre-deux. Là, Colazo, il a dit moi, j'arrête les Galactiques, je veux des mecs forts devant. Ça marche mieux. Le Stade français a dit notre force, c'est la mêlée, la défense. Ça marche mieux aussi. On a l'impression que les clubs qui arrivent à se mettre derrière une identité forte.
La Rochelle est un peu à contrario de son identité.
La Rochelle est dans
habituel.
Un entre-deux. Et essaie de changer un petit peu cette identité. Parce que Ronan O'Gara nous disait hier, quand même, après le match contre le Racing, je suis content pour le rugby que La Rochelle ait gagné. Parce qu'en face, ce n'était que de la brutalité. Ça veut dire oui, enfin, vous avez gagné deux titres de Coupe d'Europe comme ça. Et il l'a reconnu lui aussi. Donc c'est bien ce qu'il a dit. J'aurais été bête de ne pas faire ça avec Antonio Skelton. Donc il y a des. Eux, ils sont dans un changement.
Oui, après, c'est l'effectif.
Bien sûr,
bien sûr.
C'est aussi être intelligent, c'est être caméléon. Cette équipe, elle est caméléon parce qu'en fonction de l'effectif, si tu as des gros porteurs de balles, pourquoi pas les utiliser ? Ce qui est aberrant, c'est de voir tous les clubs qui veulent copier une identité en ayant des gros porteurs et faire du large-large et ils ne peuvent pas. Donc ils explosent. L'ADN du stade, c'est de faire vivre le ballon jeu debout.
Vous l'avez dit.
Racing, et bien sûr, le Racing, c'est impitoyable devant, ça joue bien les contres. Montpellier, La Rochelle, ils sont dans un entre-deux parce qu'ils ont besoin de faire rajeunir leur équipe. Donc, sur cette saison, je pense que l'année prochaine, ça ira beaucoup mieux en termes d'équilibre de jeu.
Toulon est un petit peu perdu aussi dans cet équilibre et dans savoir quoi faire.
Il faut s'appuyer sur son ancrage territorial, sur son ADN, sur comment on est arrivé à avoir du succès. Et Montpellier, c'est ce qu'ils font.
Et là, Montpellier, ce que veulent faire aussi, Cédric, t'en parlais tout à l'heure, c'est s'appuyer sur les anciens. Christophe l'a dit, cette période sud-africaine a fait beaucoup de mal au club. Et c'est vrai que depuis que Jean-Baptiste Elissal est arrivé, alors tu le connais très bien, il a été élevé du côté de La Rochelle et ensuite du côté de Toulouse, où il veut qu'en gros, on joue pareil, des crabos jusqu'aux professionnels. Donc c'est-à-dire qu'un jeune crabos, s'il monte Réchel, il connaîtra le projet de jeu. Si un Réchel monte pro, il connaîtra le projet de jeu. Donc on fait revenir tous les anciens dans toutes les strates du club. Donc, par exemple, Anthony Floch, passé évidemment par Clermont, mais qui a fini sa carrière à Montpellier, s'occupe aujourd'hui des jeunes. Et en fait, à tous les étages du club aujourd'hui, il y a des anciens professionnels montpelliérains. Et Joan Codulo, qui est évidemment au centre de formation, a donné le projet de jeu du MHR à toutes les équipes de jeunes.
Et donc aujourd'hui, ce qui se passe à Toulouse.
Ce qui se passe à La Rochelle, ce que Jean-Baptiste Elissal d'ailleurs est le premier à avoir mis en place du côté de Montpellier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une identité forte.
Il faut que Montpellier,
toutes les équipes jouent de la même manière et que quand le Liam Akrab, le jeune talonneur, monte en professionnel, il ne soit pas perdu, il sait exactement où il va. Et c'est ce que Joan Codulo est en train de faire. Alors il n'arrête pas de le répéter, c'est un travail de longue haleine. Mais aujourd'hui, ils sont récompensés de cet investissement.
Pau, c'est l'exemple.
Exactement.
Même. C'est aujourd'hui le manager, excusez-moi, j'ai oublié.
Piccheroni,
est arrivé. On lui a dit, t'as 3 à 5 ans pour construire. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a bâti sur les jeunes, en disant très bien, j'ai la vitrine qui est l'équipe numéro 1 que tout le monde voit à la télé tous les week-ends. Mais si dans 3 ans, dans dans la volonté de faire monter des jeunes, il faut qu'on aille former plus bas. Et pour former plus bas, il faut mettre des managers, il faut mettre des entraîneurs qui ont l'ADN du club, qui ont le discours et qui partagent le même système de jeu, qui veulent mettre en place plus haut. C'est le fameux plan de succession. Mmh. Aujourd'hui, chaque club qui se projette dans l'avenir ne recrute pas dans un an, mais recrute à 3 ans, en se disant, je vais prendre un cas que tout le monde connaît, qui est Antoine Dupont. Derrière Dupont, au Stade Toulousain, il y a déjà 3, 4, 9 qui sont identifiés pour prendre. Et on fait ça pour chaque poste. Et on sait qu'en cas de départ, c'est le petit jeune Krabos qui est méritant et à qui on voit un bel avenir, va pouvoir monter, passer les échelons. Mais ça, c'est laisser aussi la vision du président, de laisser du temps au manager. Johan Codulo, il a sans doute moins de pression que tous ses prédécesseurs à La Rochelle. Le travail de Jean-Baptiste Elissal de dire l'équipe 1, je la descends et en fonction et je simplifie le jeu pour aller jusqu'on va dire à peu près les... Allez, c'est la tranche d'âge, c'est Krabos, c'est 16-17 ans, ouais, Goderman, exactement. À partir de là, on doit être capable de faire monter ces jeunes joueurs. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Moi, je suis admiratif de ces présidents qui ne cèdent pas à la tentation de virer les entraîneurs tous les 2-3 ans.
Ça c'est nouveau de la part de Mohamed Attal.
C'est nouveau, mais ça marche.
Oui,
c'est nouveau et ça marche.
Mais ça n'a pas du tout été le cas jusqu'à présent. Hein, parce
oui,
que les entraîneurs,
mais ils n'avaient pas de résultats.
Philippe a quand même obtenu des résultats en devenant champion de France.
Oui, mais Philippe, c'était ça. Quand Philippe est arrivé, il a tranché et il a amené ce cadre et il s'est rappelé sur ces valeurs-là. Après, il y a eu d'autres aventures, mais entre Philippe et maintenant, c'est dans la continuité pour moi. C'est pas toute l'ère sud-africaine, on vire et on met d'autres entraîneurs.
Est-ce que, Julien, tu penses que cette équipe montpellierenne est capable de s'installer à ce niveau-là longtemps? Est-ce qu'il y a quand vous parlez des centres de formation des jeunes, mais c'est pas le club où on voit le plus de mecs émerger, tu parles de Liam Akrab, c'est vrai, Alexis Bernadet, mais qu'on voit pas comme des futurs très grands, peut-être la Macrama plus. Est-ce que tu penses que ce système-là de Montpellier et les joueurs qu'ils ont, qui sont aussi vieillissants, on en reparlera, pour certains et pour la plupart des cadres, est-ce que c'est une équipe qui est capable de s'installer dans ce top 6 et de pas faire un yo-yo comme font plein d'autres clubs de top 14 en ce moment?
Alors après, c'est ce que dit Johan Codulo, c'est un travail de longue haleine. Donc là, pour la première fois depuis 10 ans, les Goderman ont été champions de France l'année dernière. Donc tu te dis que la génération moins de 16 est une génération brillante. Alors après, il faut évidemment.
Il y avait un peu de concurrence dans la région quand
même. Oui, c'est ça.
Surtout des vieux clubs. Très installé, Narbonne, Béziers.
Et en Krabos, ils étaient en finale, il me semble, au Stade de France contre Toulouse.
C'est ça, exactement. Donc aujourd'hui, ils sont en train de construire sur un projet. Alors après, il va falloir passer le cut. Ils ont copié pour le coup le modèle de la section paloise avec cette fameuse capsule où aujourd'hui, ils ont 12 espoirs qui sont là en permanence, où on a identifié les postes clés. Alors le premier qui sort aujourd'hui, c'est Liam Akrab, mais il y a le petit Sukuna qui est revenu de Biarritz. Donc ils essayent aussi aujourd'hui de faire un plan de succession pour assurer la continuité. Mais oui, après, il faut de la stabilité, il ne faut pas se tromper sur le recrutement des cadres qui vont partir. Non, mais c'est dur, il ne faut pas se tromper sur le recrutement des joueurs cadres qui vont partir. Et après, en tout cas, ce qui est fort aujourd'hui, c'est le signal que tu envoies avec les prolongations de contrat de Lenny Nouchi jusqu'en 2028, de Baptiste Erdosio, d'Auguste Cado, tous ces, pour le coup, qui sont plus jeunes aujourd'hui, qui ont 25-26 ans, qui s'inscrivent dans la durée du côté de Montpellier. Donc tu te dis qu'ils sont en train de mettre en avant la patience dont parlait Cédric avec des jeunes joueurs qu'ils veulent garder, qu'ils veulent promouvoir. Et après, il va falloir recruter autour un effectif solide.
Ça fait effet boule de neige parce que, regardez, aujourd'hui, les jeunes, ils veulent aller à Toulouse. Mmh. Pourquoi? Parce qu'ils sont sûrs que pendant les doublons, pendant certaines phases de championnat, ils vont avoir du temps de jeu, ils vont être vus et ils peuvent lancer leur carrière. Si tu fais très rapidement jouer tes jeunes, tu vas attirer des jeunes. Et les jeunes, au lieu d'aller peut-être à Toulouse ou à Bordeaux, ils iront peut-être à Montpellier en se disant « je vais avoir du temps de jeu ». Donc cette génération qui va arriver, Goderman, Krabos et autres, va être renforcée naturellement. Tu cibles des postes où Venipoula, faudra peut-être le remplacer, où il y a vous l'avez dit, Nouchi qui a re-signé, ils peuvent s'inscrire comme ça en faisant des petites touches par ligne de recrutement et après faire émerger ce centre de formation avec les 12 ou 15 joueurs qu'ils ont.
Avec l'exemple du coup de Melvin Rates, qui est aujourd'hui international U20, qui était à Grenoble et qui a donc accepté à l'intersaison de venir à Montpellier, qui a du temps de jeu, donc ça veut dire qu'aujourd'hui Montpellier devient attractif pour les jeunes. Et l'exemple le plus fort peut-être du recrutement des Montpelliérains, c'est Dimitri Delibes, le Toulousain. C'est difficile de récupérer un Toulousain. D'habitude, Cédric, t'en sais quelque chose. Parce que quand t'es à Toulouse, tu sais que tu peux gagner des titres. Alors, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu. Et il a accepté de rejoindre Montpellier à la saison prochaine pour avoir du temps de jeu, pour peut-être progresser. Mais recruter un gros potentiel Toulousain pour un club du top 14, ça prouve aussi que t'es attractif et que tu es, pour les autres joueurs en tout cas, devenu un club qui devient attractif et intéressant pour les autres joueurs du top 14.
T'envoies un signal comme quoi tu peux avoir du temps de jeu. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Moi, je serais jeune joueur, je me poserais la question sur quelques clubs. Pau est très excitant pour ça. Pour te dire, je suis jeune, je suis prometteur, j'ai envie de jouer forcément. Le Stade, oui. Bordeaux, oui. Parce qu'ils ont de jeunes joueurs qui sont en train de monter en puissance. Mais si tu n'arrives pas à rentrer dans ces cadres-là et ces cases-là de ces deux grands clubs, tu as Montpellier qui est en train de s'inscrire, je trouve, vraiment, pour donner du temps de jeu aux jeunes. Et puis, moi, vous le savez, j'entraîne les U12 de Brive. Quand je me déplace, je vois la jeune pépinière de Montpellier. C'est très costaud, ça joue, ça se fait des passes. Donc, il y a cette identité qui est en train de renaître.
Ouais. Un petit mot donc sur le directeur de rugby qu'on connaît bien, Bernard Laporte. Quelle est son influence aujourd'hui au sein de ce MHR? Est-ce qu'il est tout puissant? Est-ce que c'est lui qui fait la pluie et le beau temps? Est-ce que c'est lui qui décide du schéma de jeu, des recrutements? Comment ça se passe, Julien? Est-ce qu'il est le patron de Codulo ou Codulo a pris son indépendance vis-à-vis de Bernard?
Non, mais Bernard continue d'exister à Montpellier. Non, aujourd'hui, le patron du sportif, c'est Johan Codulo, très clairement. Bernard n'a pas son mot à dire sur la composition d'équipe. Si on compare avec Philippe Saint-André à l'époque de Jean-Baptiste Elissalde, Philippe était directeur du rugby, mais avait son mot sur la composition d'équipe. Aujourd'hui, la composition d'équipe est faite entre Antoine Batut, Didier Besse, Geoffrey Doumerou, Benoît Payog et Johan Codulo. Bernard, il est au courant.
Il a rien à dire.
Bernard, il est au courant de la compo. Il assiste à tous les entraînements, il assiste à toutes les réunions du staff tous les matins. Il fait parfois les causeries. Johan Codulo lui demande parfois d'avoir la petite causerie veille de match.
Ça, il s'y entend. Alors,
oui, ça, il est très content, Bernard, encore de faire ça. Il est encore sur le terrain. Lui, il n'arrête pas de répéter qu'il ne peut plus entraîner. Il a encore le dernier mot sur certains recrutements. Il y a des recrutements qui sont aujourd'hui au club faits par Bernard Laporte. Adam Bird, le deuxième ligne gallois, est un recrutement de Bernard Laporte. Johan Codulo, lui, travaille avec la cellule de recrutement. Mais voilà, les deux hommes sont en parfaite harmonie, s'entendent très bien, mais Bernard n'a plus vraiment son mot à dire sur le sportif.
C'est un poste presque unique qu'il a, Bernard Laporte, en top 14. Il n'y en a pas d'autres, des directeurs du rugby, mais qui ont plus un avis consultatif, finalement. Enfin, c'est très bien que Johan Codulo soit le patron, mais je cherche d'autres exemples.
En fait, si tu veux, il est...
Quand Pierre Mioni va devenir directeur du rugby à Toulon, je pense qu'il va garder un petit œil peut-être sur la compo, par exemple.
Il est entre Thomas Lombard et tu vois, il a un peu ce rôle, lui, il gère un peu les institutions aussi, mais il est sur le terrain. Oui, vas-y, Cédric.
Ouais, je pense que Pierre Mignoni prendra même direction que Bernard Laporte, c'est-à-dire aujourd'hui avoir cette hauteur pour pouvoir continuer à guider les entraîneurs qui seront en place. Bernard a senti qu'il ne voulait plus entraîner, ou peut-être même ne pouvait plus, mais c'est toute l'intelligence qu'il a de faire grandir Codulo, de laisser le staff en place, parce que si vous intervenez sans arrêt, au bout d'un moment, quelle crédibilité vous amenez aux joueurs du staff? Parce que les joueurs, ils vont dire quoi? Ils vont dire, de toute façon, on voit ça avec Bernard, et puis voilà. Sauf que là, le patron, c'est Codulo, il fait son recrutement, il y a toujours eu les directeurs du rugby qui ont des joueurs bien ciblés, parce qu'ils sentent quelque chose, ils voient quelque chose, mais vous savez, c'est qu'une question de qui fait quoi et à quel moment. Si les rôles sont bien définis, que les fiches de postes sont définis, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas quand le directeur du rugby interfère sur le rugby. Ce n'est pas les mêmes mots, ce n'est pas les mêmes discussions, ce n'est pas la même vision. Là, si tout est clair, on entend très peu parler de Bernard Laporte. On voit plus Codulo. Et l'équilibre, je la trouve bonne. Moi, honnêtement, ça sent un bel avenir pour Montpellier.
Il se dit quand même que Bernard Laporte aurait refusé à Codulo de partir à Toulon. Il était paraît-il très intéressé. C'est Bernard qui a dit non, tu restes là.
Ça se passe comme ça. En fait, Johan Codulo a été sondé par Toulon, comme c'est la vie aujourd'hui de tous les managers. Johan Codulo a donc été visiter les installations de Toulon, mais Johan Codulo est très attaché à Montpellier. Il est encore sous contrat sous un an. Alors, Moed Altrad a très mal vécu ce déplacement de Johan Codulo. Il estime que lui, c'est une trahison. Alors, on lui fait comprendre que c'est la vie aussi des managers de rugby. Mais Bernard a conscience qu'il a entre les mains un très bon manager et à qui il a envie de donner du temps, à qui il a envie de prolonger. Donc oui, évidemment, quand il a appris ça, Bernard n'était pas ravi, mais il a envie de le garder avec lui et de le garder à Montpellier pendant quelques années encore.
Non, mais en toute transparence, à la place de Koudoulou, qu'est-ce qu'on aurait fait ?
Évidemment.
Moi, je vous le dis, je vais aller visiter les installations.
Ça veut dire, attention, t'en as visité des installations.
Tu fais monter les enchères, ouais, tu doubles ou tu triples ton salaire.
Et puis surtout, je connais les installations Montpellier-Rennes, Cédric, et j'ai été la dernière fois au Campus RCT. Je veux bien croire que Joan Koudoulou a été séduit par le Campus RCT qui a coûté des millions et des millions d'euros et qui est un lieu exceptionnel pour travailler. Montpellier, non, ça reste encore Koudoulou, très
artisanal.
Je plaisante, mais Koudoulou, je sais, il est parti prendre des notes pour construire le centre de formation.
Ah, mais c'est un vrai exemple. C'est un vrai exemple.
Son président a quand même quelques moyens. Donc voilà. Je reste là, président, mais si vous pouviez me construire un petit centre comme celui de Toulon, ça serait pas
dernier
mal.
Dernier cri.
Mais de toute façon, pour faire monter les jeunes et les attirer, aujourd'hui, les jeunes, ils regardent ça, les installations pour venir dans les centres de formation. Tout ce qui est possible avec le double projet, ils regardent tout ça maintenant. Donc si tu veux attirer, il faut avoir un centre de formation digne de ce nom.
Joan Koudoulou qui, lors de la saison du titre, s'occupait donc du centre de formation du MHR, et à qui tu as demandé, Julien, de comparer les deux effectifs du MHR, celui de 2022 et l'actuel. On l'écoute.
2022, il y avait des leaders charismatiques, intéressants à tous les postes, je trouve. Dans ces moments-là, on a besoin de ça. C'est un peu tôt d'affirmer qu'on a les mêmes leaders maintenant. Je trouve qu'ils avaient beaucoup plus de leaders en 2022 que ce qu'on a aujourd'hui, nous, en 2026. Et les leaders permettent de gagner les matchs qui sont importants. Et c'est la deuxième année de notre projet. Encore du travail à faire au-delà du jeu qu'on peut produire dans mon effectif pour pouvoir évoluer et affirmer qu'on peut gagner des choses.
Il n'y a pas de leaders. Il n'y en a pas autant qu'en 2022.
Moi les mêmes. 2022. Alors 2022, n'oublions pas, il y avait non, mais en 2022, Christophe. Oui, mais en 2022, Christophe, t'avais Guirado, capitaine de l'équipe de France. T'avais Fulgence Ouédraogo, l'historique du club. Mmh. T'avais Zach Mercer, meilleur joueur du championnat. T'avais Benoît Payog, qui avait 10 ans d'expérience. T'avais Geoffrey Doumerou. T'avais Anthony Boutier. T'avais Yann Serfontaine.
Il y avait que des tauliers,
quoi. Non, il y avait que des tauliers. Il y avait ça, mais il y avait des tauliers partout. Il y avait il y avait Arthur Vincent qui revenait de blessure. Il y avait une équipe qui était plus expérimentée, qui avait plus de vécu commun. Alors oui, il y a des leaders aujourd'hui. Lenny Nouchi est en train de prendre un rôle de leader. Vunipola, évidemment. Stuart Hogg, il est toujours là. Il y a des leaders. Mais ce que veut dire Joan Koudoulou, c'est qu'en 2022, ils avaient plus d'expérience. Et il y avait des joueurs qui avaient envie de partir en plus la tête haute. Guillaume Guirado, c'était son dernier match. Fulgence Ouédraogo, c'était son dernier match. Il y avait des leaders qui n'avaient rien gagné et qui avaient envie de gagner en plus avec cette génération-là.
Par contre, je trouve que, et c'est ce que nous disait Enzo Farletta qu'on a invité hier sur RMC, c'est que l'état d'esprit est le même.
Oui,
c'est ça,
exactement.
Le vrai point commun entre ces deux générations, ces deux équipes, c'est que l'état d'esprit est le même. Moi, je trouve que l'identité est la même. Je trouve que dans le jeu, c'est peut-être encore plus fort devant. Mmh. Je trouve qu'il dégage une puissance qui est. Nous, quand on parle à des joueurs au top 14, j'ai des joueurs qui m'ont dit, mais dans les couloirs, on marche à côté des Montpelliérains, tu te dis, mais c'est des monstres. C'est tous du 1 au 15. Il y a peut-être Ngandebe qui a un physique normal. Et sinon, c'est des bœufs partout. Peut-être que derrière, c'est un petit peu moins fini que ce que tu es en 2022. Je trouve qu'elle est un peu plus forte devant, un petit peu moins forte derrière cette équipe. Mais en effet, c'est peut-être sur cette expérience dont parle Joan Koudoulou que ça peut se jouer.
Cédric, ça manque un peu de leader, tu penses, comme disait Joan Koudoulou, pour espérer aller chercher, évidemment, le Graal, qui est le bouclier de Brennus.
Une histoire, il y a le renouveau d'une histoire. À la fin d'une histoire, vous l'avez dit, avec les joueurs qui étaient en fin de carrière, Ouédraogo, Guirado, et ils avaient besoin, ils étaient animés par cette envie de bien finir cette histoire-là. Sauf que l'histoire, eux, ils sont en train de l'écrire pour continuer à la vivre. C'est pas la même chose. Et tout d'un coup, ces joueurs, vous l'avez rappelé, sont en train de grandir avec le projet. Ils vont pouvoir s'accaparer totalement le projet et ça va être des futurs grands leaders. Mais c'est un Montpellier, alors je dirais pas construction, reconstruction, je sais pas comment le dire, mais en tous les cas, c'est un Montpellier en évolution qui est en train de faire naître et construire des leaders.
Après Cédric, moi, pour du coup suivre le MHR depuis presque 20 ans maintenant, j'ai rarement vu une équipe aussi forte devant. Honnêtement, il y a une densité dans cette équipe du 1 au 8, et puis même Joan Koudoulou l'avait dit en début de saison.
Et du 12 au 13 au
Oui, non, mais Joan Koudoulou avait dit, j'ai la chance d'avoir trois premières lignes de même niveau, avec Forletta, Erdosio d'un côté, Awas, Oumpatin, Oulézé, Tolofua. J'ai jamais vu une équipe aussi forte, Cédric, que celle de Montpellier en ce moment. Est-ce que les adversaires, tu penses, alors Joan Koudoulou dit non, ils n'ont pas peur de nous encore, ils nous font courir. Est-ce que tu penses que les adversaires commencent à avoir peur de la densité montpelliéraine ?
Bah, ce qui est sûr, c'est qu'il se pose des questions. Tu passes à la machine à laver chaque fois que tu joues Montpellier. Pour avoir échangé avec quelques joueurs, chaque fois que tu joues Montpellier, tu sais que dans le combat, si t'es pas prêt, tu passes dans la machine à laver. Ils sont dans cet équilibre avoir ou pas avoir le ballon. Mmh. C'est-à-dire que quand ils ont le ballon, on a la sensation que le jeu est pas encore totalement léché, mais c'est aussi l'ADN de Montpellier, hein, j'allais dire de casser des bouches, pardon, mais...
Non, c'est vrai, c'est le cas. C'est ce qu'ils font.
Très fort devant, et ils tuent, tu veux les faire courir, mais ils ont quand même ce moteur qui leur permet de tenir les matchs. Après, l'équilibre, c'est quand les équipes... J'attends de voir une équipe qui les laisse jouer. Vraiment, qui les laisse jouer. On les a vus en Coupe d'Europe.
Bah oui, contre Newport. Newport, ça a laissé jouer. On les sentait un peu perdus.
Bah oui, parce que quand tu as une équipe qui passe tout le monde à la machine à laver devant, il est toujours plus facile. On a toujours parlé des trois quarts du Stade Toulousain, mais parce qu'il y avait des paquets d'avant qui roulaient sur tout le monde. Donc il est plus facile de jouer quand tu avances. Aujourd'hui, ils sont dans ce fameux équilibre. Alors j'aime pas quand je lis ils gagnent moche, c'est pas beau à voir jouer. C'est un rugby
moche et méchant
de territoire. Voilà, moche et méchant. C'est un rugby de territoire, mais dans la densité physique individuellement, ils sont dans les hauts standards. Je dirais international.
Bien sûr, et je trouve que il y a d'autres équipes qui essaient de faire comme eux en top 14, c'est ceux qui le font le mieux. Je ramène au club parisien, ils essayent de faire ce style-là, surtout le Racing de Colazo qui en plus est passé à Montpellier. Ils ont aussi ce côté-là, on est des super-héros, on va vous, comme tu dis, casser la bouche devant. Ils en ont des monstres, sauf que le tout est moins cohérent, et je trouve notamment que la charnière de Montpellier est parfaitement adaptée aussi à ce style de jeu là. Quant à Ali Price et Domingo Miotti, c'est des mecs qui sont parfaits dans l'occupation, c'est des mecs qui sont capables, qui n'ont pas besoin de 50 ballons, qui n'ont pas envie de jouer des coups vite tout le temps, alors que Racing, Carbono, Gibert, c'est des mecs hyper joueurs. La Carbono, il veut jouer toutes les pénalités rapidement, alors que Colazo, il demande à tout le monde de se calmer. Et c'était flagrant hier contre La Rochelle où Colazo montrait les 3 points et Carbono jouait vite au pied. Alors que Montpellier, je trouve qu'il y a une unité globale devant, derrière, tout le monde va dans le même sens et tout le monde a ce but là de on vous casse la bouche devant et on voit ce qui se passe derrière. Après, peut-être que c'est trop réducteur et peut-être qu'en phase finale, face à des équipes qui vont les faire jouer, ça va être plus compliqué. Mais je trouve que dans ce style de jeu-là, que on va dire 4-5 équipes ont en top 14, c'est eux qui le font largement mieux.
Mais après, ils vivent cachés encore et je pense qu'ils en sont ravis. Hein, parce que, par exemple, on parle des statistiques, ils n'ont pas la possession contre Montauban. Ça n'a pas dû beaucoup arriver en top 14. C'est 55% de possession pour Montauban, 45% pour Montpellier. Montpellier, ils sont pas embêtés à défendre. Ça, pour le coup, ils aiment défendre. S'il faut défendre pendant 60 minutes, ils défendront pendant 60 minutes. Geoffrey Doumerou, un jour, on en parlera, mais il fait un travail.
La dépossession.
Non, c'est pas de la dépossession. Ils aiment défendre. Ils sont habités par la défense. Ils se nourrissent de ça, Cédric. Moi, je les vois, on assiste toujours aux entraînements le jeudi, qui est consacré à la défense. Geoffrey Doumerou, il fait un boulot extraordinaire. Tout le monde, d'ailleurs, loue son travail.
Marc aussi.
Ouais, Bernard Lapote dit, j'ai jamais vu un mec aussi fort que Geoffrey Doumerou. Non, mais défensivement, il fait un travail exceptionnel. Il a mis en place une rush défense un peu à la sud-africaine. Donc ça, ils se nourrissent de cette défense. Et après, ils vont se nourrir de miettes. Mais Johan Codulo, il est un peu agacé parfois parce qu'il sent que les équipes, elles respectent pas vraiment Montpellier. Ils disent, on est toujours l'équipe contre les adversaires. C'est ceux qui tapent le moins dans le ballon contre nous parce qu'ils veulent nous faire courir. Ils pensent que physiquement, on va finir par exploser. On n'explose jamais. Il a dit contre Toulouse, ils ont mis quand même 40 points à Toulouse à domicile, 40 points à Bordeaux, 40 points à La Rochelle. Ils ont mis des tolls.
Ils sont allés gagner à Clermont.
Gagner à Clermont, 40 points au Stade France à domicile, 40 points au Racing. Ils ont passé à la moulinette toutes les équipes à domicile.
Je dis pas qu'il est plus facile de défendre, mais c'est moins énergivore que porter le ballon, ça c'est sûr. En tous les cas, quand tu es en place défensivement, tu te nourris et puis tu rentres dans la tête de ton adversaire. C'est-à-dire, ok les gars, jouez, mais nous, vous passerez pas. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'ils sont capables d'être une équipe caméléon, de s'adapter aux équipes qui jouent et de mettre en fonction, et vous l'avez dit, le système défensif, il est en place, mais c'est un régal à regarder. Il se panique jamais. Ça se replace. C'est intelligent. Ça met les gros au milieu du terrain. Les rapides sur les bords. C'est très étudié, très efficace. Après, ils jouent très bien en contre. Ils ont le troisième meilleur réalisateur du championnat, c'est-à-dire qu'ils prennent les points. Si on revient au match de hier soir, dans la folie de pas prendre les points, au bout d'un moment, tu les as pas. Et eux, ils sont cliniques. C'est-à-dire que les points qui sont à prendre, on les prend. Très méthodique, très anglo-saxon.
La sud-africaine, un peu. Hein.
Anglo-saxon.
Ouais. Et ils sont convaincus de leur force. Maintenant, je le redis, attention, j'ai pas d'avertissement à donner, mais j'aimerais les voir une équipe qui les laisse jouer, qui leur dit, moi je veux pas le ballon, vous le voulez pas, allez, gardez-le. Là, j'aimerais voir.
Mais qui va faire ça,
oui, Cédric, qui va faire ça quand tu regardes
ne pas vouloir le ballon contre Montpellier, c'est ça, moi, que je me demande dans les top équipes.
Le problème, si le prennent le ballon et qu'ils le gardent et qu'ils jouent à cache-ballon pendant plus d'une heure à faire jouer leurs avants, tu peux avoir mal à la tête aussi. Hein. Donc l'équilibre face à des équipes caméléons, c'est de trouver le bon jour, le bon système qui les fait déjouer. Aujourd'hui, il y a quelques équipes qui sont arrivées. Ils ont jamais pris de secouer dans tout le championnat. C'est un candidat plus que sérieux et un candidat caché.
Ils en
rappelez-vous,
sont...
Castres. Hein. Rappelez-vous, Castres, on disait quoi? Cette équipe, même s'ils n'ont jamais voulu l'entendre, que c'était une équipe de pénibles, mais c'est une qualité. C'est une qualité aujourd'hui d'être capable de faire déjouer les gens, de faire déjouer les équipes, de mettre en place des systèmes qui t'asphyxient. Parce que quand ils te tiennent, honnêtement, ils te font reculer. Ils ont de la longueur de pied, ils sont costauds. Quand tu vas en touche avec Vérag et autres, c'est compliqué de pouvoir lober tous ces preneurs de balles. Donc, ils te mettent sous oxygène. Et au bout d'un moment, c'est eux qui ont le bouton de je t'en mets un peu plus ou je te le retire. Et ils jouent à leur main. C'est ça qui est bien, c'est qu'ils jouent à leur main.
Et c'est là où ça fait penser à 2022, Cédric, parce qu'ils avaient finalement assez le même profil. Ils avaient fait cette demi-finale très fermée contre Bordeaux à Nice, où ça avait été un match de boucher. Et les Montpelliérains, dans ce match de boucher, on se rappelle d'Aprasidze qui avait mis des pénalités de 50 mètres, qu'ils avaient pris tous les points. Et tout le monde a oublié, mais cette finale contre Castres, ils avaient joué au rugby pendant un quart d'heure.
Et ils
avaient mis trois essais en un quart d'heure, dont un essai exceptionnel d'Arthur Vincent avec du jeu dans le dos et de Garbici. Et ensuite, ils avaient fermé. Hop. Et donc, cette équipe-là, tu sens qu'ils sont capables de un peu tout faire aujourd'hui. Tu l'as dit, en touche, ils ont la meilleure conquête en mêlée avec le Stade français. Ils ont le meilleur contre en touche avec Vérag et Camara. Ils sont très solides sur...
Ils ont une paire de centres.
Ils ont une paire de centres. C'est la meilleure défense du top 14. Johan Codulo, quand il avait pris l'équipe, il avait regardé les statistiques. Il avait dit, les équipes qui terminent dans le 6, c'est toujours les 6 meilleures défenses. Donc, notre priorité, ça va être d'abord être la meilleure défense. Donc, aujourd'hui, Montpellier est la meilleure défense du top 14. Et ils sont, n'oublions pas, sur 18 victoires sur les 21 dernières rencontres, plus deux bonus défensifs à Toulon et à Pau. Le seul match où ils n'ont pas existé, entre guillemets, c'est celui à Toulouse.
Et encore, c'était moins pire
parce qu'ils
n'ont
pas voulu y croire, exactement, avec une équipe C. Donc aujourd'hui, ils ont aussi la dynamique, la confiance. Depuis décembre, ils n'ont perdu que 3 matchs. C'est une dynamique exceptionnelle de la part du MHR.
Alors franchement, quand on entend les stats de Julien, on se dit que Montpellier, il va tout droit vers les deux objectifs. Alors, on en parlait tout à l'heure, il y a la Challenge Cup. Qui les intéresse,
hein.
C'est un club qui a la culture de cette compétition. Ils ne sont pas qualifiés pour la Champions Cup, donc la Challenge, on va la jouer à fond. Ils l'ont déjà remporté deux fois. Ouais. Je crois qu'il y a deux autres équipes qui en ont décroché trois. C'est les Harlequins et Clermont.
Montpellier a toujours écrit son histoire grâce à cette compétition. En 2016, ils étaient dans le dur à l'époque de Jack White. Et en fait, ça avait permis de resserrer le groupe. Ils n'étaient pas loin de descendre. Et finalement, ils avaient créé cette dynamique avec la compétition européenne. Ils avaient été la gagner en 2016 et il la gagne en 2021, l'année avant où ils sont champions de France, quand Philippe Saint-André prend les rênes de cette équipe après le départ de Xavier Garbajosa en janvier. Philippe dit il faut qu'on retrouve de la confiance sur le challenge européen, ça va nous permettre de regagner des matchs de top 14. Et donc il avait redonné de la confiance grâce à cette compétition que les Montpelliérains remportent en 2021. Et un an plus tard, ils sont champions de France. Donc en fait, tous les 5 ans, les Montpelliérains se retrouvent en finale de cette compétition. 2016, 2021, 2026. Et à chaque fois, ils gagnent et on verra ce que ça va donner au bout.
Un petit bémol sur la compétition. Je ne trouve pas ça vrai de dire que c'est un des seuls clubs à aller jouer. Parce que sur les 6 dernières éditions, 7 dernières éditions, il y a 6 finalistes français dans la compétition. Donc il y a souvent un club français qui arrive à se
qualifier. Il y en a un qui la joue par an à peu près.
Oui, c'est Lyon l'année dernière. Toulon, il y a 2 ans, la gagne. Lyon, il y a 3 ans, la gagne. Montpellier, tu l'as dit, il y a 5 ans. Clermont, en 2019. Donc il y a souvent des clubs français.
Ça dépend aussi de ta situation en top 14.
Et là où je suis d'accord, c'est que cette compétition.
La différence, pardon, du coup, c'est que l'annonce que ça les intéresse. Les autres clubs, c'est arrivé en quart de finale, ils disent « Ah,
oui,
pourquoi
ça,
pas ?»
Je suis d'accord.
Essayer d'aller au bout. Eux, ils annoncent très clairement. Et ce n'est pas pareil que de dire « On la joue à fond, elle nous a servi pour relancer les joueurs, pour relancer la dynamique de groupe. » Eux, ils s'inscrivent pour vraiment la gagner. Et c'est différent dans l'état d'esprit.
Et par contre, ce qui est important pour Montpellier, c'est que cette compétition, un, leur a servi cette année, tu l'as dit, pour la confiance, pour faire jouer du monde, pour élargir le groupe. Et puis deux, elle demande moins d'énergie aussi quand même. C'est-à-dire que là, on voit la situation de Bordeaux. C'est pas pareil de jouer la Champions ou la Challenge. Donc il y a des clubs qui, en effet, en Challenge disent on arrête. C'est le cas de Clermont qui l'a pas joué. C'est le cas de Stade Français qui a lâché son match aussi contre Newport, justement. Mais c'est une compétition qui demande beaucoup moins d'influx. Donc quand tu la joues, tu peux la jouer à trois quarts, on va dire, en mettant pas forcément les cadres, mais avec l'état d'esprit qu'il faut.
C'est pas des doublons. Exactement. En fait, c'est, par exemple, Lenny Nouchi n'a pas joué un match de poule. En fait, il a fait du jus à chaque fois. Donc il y a eu une époque où il est parti en équipe de France. Et en fait, mais c'est ça, des semaines où le club a
parce
ciblé.
Que l'effectif est assez pléthorique.
Oui,
quand
effectivement.
Même.
Et puis que
l'état d'esprit est le bon.
Oui,
en disant, on veut la jouer.
Parce que tu sais que tu peux gagner ces matchs-là sans Lenny Nouchi aussi. Sûr. Alors que tu peux pas gagner un match de H-Cup sans Lenny Nouchi. Donc mais c'est une compétition qui est quand même d'un niveau un peu inférieur, avec lesquels tu peux permettre de faire jouer des jeunes. C'est là où Melvin Rates a été lancé pour la première fois. C'est comme ça aussi que Montpellier a décidé d'aborder cette compétition.
Mm-hmm. Alors, oui, c'est comme ça que tu peux recruter en disant que on cible des jeunes, on parce qu'ils vont avoir tout le bouclier, on te fait jouer, il y a les doublons, et ainsi de suite. C'est gagnant-gagnant.
Alors, l'objectif prioritaire, bon, il y a la Challenge Cup, mais évidemment, on ne va pas se cacher la vérité, le bouclier de Brennus, c'est ce qui intéresse prioritairement les Montpelliérains qui ont donc remporté une seule fois le bouclier dans leur histoire.
Exactement, 2022.
Alors, vous placez Montpellier à quel endroit de la hiérarchie des prétendants au bouclier de Brennus? On va commencer avec toi, Pierre. Toi, je sais que tu es un fan des clubs parisiens.
Alors, on va arrêter cette légende.
Éventuellement Clermont.
Voilà. Je suis les clubs parisiens avec attention. Je ne suis pas un fan des clubs parisiens. Pour moi, ils sont juste derrière Toulouse. Dans la hiérarchie,
donc,
je pense que...
Ça veut dire outsider numéro 1.
Je pense que c'est l'outsider numéro 1 parce que Pau, pour plein de raisons, je préfère le jeu de Pau, mais il y a moins d'expérience, c'est une équipe qui ne connaît pas ces phases finales-là. Et je pense que leur jeu peut se heurter plus facilement à des adversaires plus forts qu'eux. Je pense que Bordeaux va perdre énormément d'énergie. Là, c'est que c'est du pronostic, mais je pense qu'ils vont perdre beaucoup d'énergie dans la Champions Cup. Et ils vont devoir cravacher en plus pour être dans les 6 ou dans les 4.
Ils cravachent déjà.
Montpellier, sur cette fin de saison, a l'avantage déjà de recevoir la section paloise pour essayer d'être dans le top 2. Et pour moi, le deuxième est par essence l'outsider numéro 1 parce que tu t'enlèves un match de barrage à jouer. Et ça fait très longtemps qu'il n'y a pas une équipe qui était hors du top 2 qui a gagné ce tournoi, ce championnat.
2019.
Et donc, je pense que Montpellier, en plus de ça, est l'équipe qui peut le plus opposer un style qui embêterait le Stade Toulousain, qui pour moi est évidemment favori numéro 1. Donc je mets le MHR et son style, et son calendrier et sa place au classement comme l'outsider numéro 1 du Stade Toulousain.
Cédric, est-ce que tu partages l'analyse de Pierre Thévenet?
J'ai rien à dire, je peux me remercier. Non, c'est juste, Bordeaux va laisser des plumes dans le combat qu'ils sont en train de mener en Coupe d'Europe et pour se qualifier. Je pense que Pau, s'il passe, il peut y avoir un exploit s'ils finissent deuxième, mais c'est une jeune équipe avec peu d'expérience et la pression des phases finales peut l'emporter et tuer le jeu. Côté,
et puis Pau, déjà, un barrage à domicile et une demi, ce serait déjà exceptionnel. Enfin, on ne les attendait pas là. Quoi.
Et Montpellier, comme une équipe cachée que personne aimerait trop voir aller au bout, derrière le Stade Toulousain pardon, qui reste favori, mais je suis d'accord sur l'équipe qui peut embêter aujourd'hui dans un match à moitié ouvert, à moitié fermé, où il va y avoir un gros combat. Après, les avants du Stade Toulousain sont des phases finales, sont pas les mêmes que du championnat. Donc, il peut y avoir un drôle de duel. Mais si on regarde la vision du championnat, là ils vont aller à Castres, ils vont avoir leur Coupe d'Europe, c'est ça. Ils reçoivent
Pau, et ils vont à Lyon.
Au soir de Pau, tu sais où finira Montpellier, et ça en mettra un challenger plus que certains face au Stade Toulousain.
C'est un vrai quart de finale, ce Montpellier section paloise, le 30 mai prochain. Peyo, il va être bien embêté. Julien va être bien embêté ce jour-là entre son équipe culturelle, évidemment, lui le Béarnais, et son équipe d'adoption. Embêté. Et en plus, comme le disait Pierre, deux jeux diamétralement opposés quand même, deux façons de jouer complètement différentes.
Moi, je pense que Montpellier sera l'outsider numéro 1 s'ils arrivent en phase finale. Moi, je suis toujours... Tout le monde dit qu'ils ont un calendrier facile. Je pense que le déplacement à Castres ce week-end...
Tu peux le paumer, celui-là.
Je pense que le déplacement à Castres, il est tout sauf facile. Et Montpellier n'a rarement gagné à Castres.
Pau a eu du mal face à Castres.
Exactement. Donc, je pense que pour moi, le déplacement à Castres est un match compliqué pour les Montpelliérains. Et ce match contre Pau, qui peut finalement arriver un peu sans pression, parce que je suis d'accord avec Pierre, affronter la section paloise en phase finale dans un match fermé, où les jeux d'avant va avoir la priorité, je pense que Montpellier peut dominer beaucoup des équipes, excepté peut-être le Stade Toulousain.
La Pau, ils vont arriver à libérer. Quoi.
Exactement. Ouais. Un match de championnat où la section paloise peut arriver avec des velléités offensives en disant ok, vous voulez faire le combat devant, mais nous on va vous faire galoper derrière. Je pense que ça peut être un match piégeux et donc il peut rester un match à jouer à Lyon pour chercher la qualif. Alors évidemment, sur la dynamique actuelle, les Montpelliérains sont les outsiders numéro 1, mais attention à ne pas se voir trop beau encore et aujourd'hui. Il reste, je trouve, moi, les deux prochains matchs sont des matchs compliqués à négocier pour les Montpelliérains.
Je crois pas que Cuidolo soit capable de tomber dans le piège de on se voit trop beau.
Non, bien sûr. Mais là, tu sais comment c'est, Cédric, les bruits autour, tout ça.
Moi, je pense que ça
va
être une grosse répétition pour les Montpelliérains à Castres avant leur finale. S'ils ont quelque chose à faire, ils vont le prendre. Mais sinon, ça serait une grosse répétition. Pleine confiance face à Luster et ils gagnent face à la section paloise. Si mes calculs sont bons, ils accrochent la deuxième place.
Oui, parce qu'après, tu te dis qu'ils iront gagner à Lyon à la dernière journée, qu'il n'y aura plus rien à jouer.
Attention, n'oubliez pas le Stade français.
Oui, non, mais
le Stade français a peut-être le calendrier le plus simple. Hein. Ils vont à Montauban, ils reçoivent Bayonne.
On parle
pour le top 2. Je dis pour le top 2, faut pas les enlever complètement parce qu'ils
sont à deux points juste derrière.
Non, mais c'est pour ça que c'est encore très serré. Et peut-être que le Stade français va peut-être faire 3 victoires d'ici la fin de la saison.
C'est tout à fait possible.
Quand les Montpellierains en feront que 2 et du coup, le Stade français passera devant. Mais bon, je reste d'accord que en phase finale, Montpellier sera l'équipe que personne n'aura envie de prendre, je pense.
Et taper Toulouse, Cédric, c'est possible? En finale
Tout est possible. Moi, j'en ai perdu, je vous rappelle. Non, dans les phases finales, c'est à part. C'est une dimension à part, c'est des matchs à part.
Oui, là, l'expérience est importante.
Ouais. Et puis après, on parle du paquet d'avant Montpellier, mais le paquet d'avant du Toulousain, c'est l'équipe de France quand même.
Oui, puis ils vont se réveiller, du moins, ils sont pas endormis.
Ils sont déjà un peu réveillés contre Toulon, là.
Ils ont voulu, à mon avis, rappeler à tout le monde qu'ils étaient là.
C'est ça, ils étaient encore là. Oui.
En tout cas, eh bien, cette fin de saison s'annonce palpitante avec tous ces clubs qui prétendent évidemment à aller toucher le bout de bois, mais ce sera difficile évidemment de priver Toulouse de cet avantage qu'ils ont depuis des années. Merci les garçons. Prochain rendez-vous donc pour Montpellier, ce sera le week-end prochain face à Montauban.
C'est fait.
Et ensuite donc la finale contre l'Ulster, finale de Challenge Cup, et donc pour terminer deux matchs face à la section paloise le 30 mai. Et la dernière rencontre de Montpellier, ce sera face au Loup lors de la dernière journée. Merci messieurs.
Merci.
Et à la semaine prochaine. Beaucoup. Ciao.